Mercredi dernier, avec l'imposition des cendres, nous sommes entrés dans ce temps liturgique privilégié qu'est le carême. Si nous nous interrogeons, mais quel est le but du carême? À quoi sert-il? Eh bien, je vous invite, frères et sœurs, à reprendre chez vous, aujourd'hui, ce que vous pouvez trouver dans Magnificat, Prions en Église ou le missel dominical. Et vous pourrez regarder l'oraison que nous avons entendue et qui faisait suite immédiatement au Kyrie. Et il est dit que le carême est là pour produire une meilleure connaissance de Jésus, le Christ. Pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance de la personne. Découvrir qui est vraiment Jésus le Christ, et avec sa présence aimante, aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez pu le remarquer, le thème qui a été retenu par notre ensemble paroissial cette année est le suivant. Et c'est un extrait du psaume 118, « Ta parole, une lumière sur ma route ». Comme l'écrivait saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Le Christ n'est pas un concept, c'est une personne qui nous parle. C'est la raison pour laquelle, après la proclamation de l'Évangile, nous disons « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Alors, pour mieux entrer dans cette compréhension de ce qu'est le carême, reprenons brièvement les trois textes bibliques de ce dimanche. Ils nous permettent de pointer trois aspects fondamentaux de notre foi. Premièrement, le livre de la Genèse nous replace devant ce que le philosophe et historien Raymond Aron appelait le tragique de l'histoire. En effet, nous le savons, il y a d'une part notre recherche du bien, du bonheur, de la vie, de la joie. Et puis d'autre part, il y a ces réalités concrètes de l'existence qui sont le produit du péché. Et parfois, et nous le constatons, y compris dans notre société, cela peut se traduire par beaucoup de violence. Violence verbale, violence physique. Tout d'abord, le livre de la Genèse nous rappelle que nous sommes tirés de la poussière. Et ce rappel n'est pas là pour nous humilier. Non, c'est pour attirer notre attention sur le point de départ. C'est le souffle divin qui fait de tout homme un vivant et l'établit en relation avec Dieu. L'homme de la Genèse paraît l'oublier lorsqu'il fait l'expérience du désir d'une autonomie orgueilleuse et refuse de se fier à la parole de son Créateur. Alors il se trouve nu, d'une nudité qui est d'abord, bien entendu, spirituelle. Car il s'agit d'un néant, d'une solitude dans laquelle se trouvent tous ceux et celles qui se détournent de la relation vivante avec le Seigneur. C'est comme le vertige devant l'immensité transparente du vide, disait Ionesco. Internationalement, l'auteur du livre de la Genèse, vous avez pu le remarquer, ne donne pas de prénom à l'homme et à la femme. Le mot hébreu veut dire poussiéreux. Adam veut dire poussiéreux, c'est-à-dire fait de rien. Ce qui souligne que Dieu nous donne gratuitement la vie. Et en faisant le choix de ne pas donner de prénom, le théologien du Xe siècle avant notre ère voulait faire comprendre que le drame d'Adam, ce n'est pas simplement une histoire du passé, c'est une histoire éminemment actuelle et qui concerne chacune, chacun d'entre nous. En effet, à chaque fois que nous nous détournons de Dieu, nous faisons l'expérience parfois douloureuse que ce sont les puissances de la mort qui envahissent notre cœur. Ce que traduit magnifiquement un cantique, les ténèbres intérieures. Or précisément, et c'est tout le sens de la seconde lecture extraite du chapitre 5 de la lettre de Paul aux Romains, Jésus est présenté comme étant le nouvel Adam. En effet, nous sommes frères d'Adam lorsque nous laissons le poison du soupçon infester notre cœur. À l'inverse, nous sommes frères du Christ quand nous faisons confiance à Dieu Créateur pour le laisser éclairer nos vies. Vous avez pu le remarquer sur beaucoup d'iconographies, de tableaux, parfois même de sculptures, lorsque nous est présenté Jésus en croix, au bas de la croix, il y a un crâne qui symbolise Adam. En effet, au début du chapitre 5 de sa lettre aux Romains, Paul explique que par un seul homme, la mort est entrée parce qu'il y a eu le péché. Et donc, c'est mon sang versé pour vous pour la rémission des péchés. Et c'est le sang du Seigneur qui vient sur le crâne d'Adam pour la rédemption, la rémission des péchés, la rémission des péchés de chacune et de chacun d'entre nous. Faire confiance au Créateur, nous le voyons, c'est aussi le cœur de l'Évangile. Nous sommes avec Jésus ce matin au désert. C'est l'épreuve du désert et de la tentation. À ce sujet, Saint Léon le Grand parlera du baptême du désert pour souligner la dimension fondatrice de cette expérience. Et puis, à la page 1 des feuilles dominicales, vous avez cette merveilleuse homélie de Saint Ambroise de Milan, avec cette formule très forte. Adam, à cause du péché, est chassé au désert. Le Christ vient au désert, car il savait où trouver le condamné, qu'il ramènerait au paradis, délivré de sa faute. Alors très brièvement, interrogeons-nous en quoi consistent les tentations. L'essentiel des tentations pourrait être résumé avec une formule de Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Volonté de puissance sur la nature, et nous savons combien le pape François interpelle le monde entier sur le respect de la nature créée, voulue par Dieu. Volonté de puissance sur les autres et volonté de puissance sur Dieu lui-même. Chacune, chacun d'entre nous est invité tout au long de ce carême à relire sa vie, à pointer les lieux où se manifeste cette volonté de puissance et donc repérer ces lieux de conversion. Observons ce matin que Jésus, qui nourrira les foules au désert, refuse de changer les pierres en pain pour lui-même. Lui qui ouvrira les yeux des aveugles et guérira les lépreux, refuse de séduire les foules avec du spectaculaire qui le présenterait tel un démiurge. Et devant les royaumes du monde, il refuse aussi la force et le pouvoir des Césars de son temps, ne voulant pas confisquer la liberté humaine. Tels les empereurs romains qui, pour mieux conduire et gouverner les peuples, leur donnaient du pain et des jeux. Dans un chapitre très important d'un de ses livres, chapitre intitulé « La légende du grand inquisiteur », c'est Dostoïevski qui faisait remarquer que si d'aventure, par extraordinaire et incroyable, on avait perdu cette page d'Évangile, les tentations au désert, eh bien, les savants et les philosophes n'arriveraient pas à la reconstituer, tant elle entre dans l'impensable de la sagesse humaine. Or, ce qui nous est présenté dans les réponses de Jésus, c'est la folie de Dieu, une folie qui fait que Dieu aime passionnément chacune et chacun d'entre nous. Et cette page est capitale, nous dit le pape François, car pour convertir chacune et chacun d'entre nous, Dieu nous propose un dialogue ouvert et sincère. Oui, frères et sœurs, Dieu s'est fait conversation par la méditation des Écritures tout au long de ce carême. Ayons une priorité. Donnons la parole au Seigneur dans notre vie.